Le parti est toujours au pouvoir, c'est lui qui dirige l'État. Le grand dirigeant est en même temps premier secrétaire de ce parti. Je rappelle que le secrétaire général et éternel de ce parti, c'est Kim Jong-il. Hein. Il y a une stratégie dans la famille. Donc Kim Il-sung est le président éternel de la Corée et Kim Jong-il est désormais le secrétaire général éternel du Parti des travailleurs. Donc Kim Jong-un n'en est que le premier secrétaire. Donc le parti a toujours été une des jambes, je dirais, de la monarchie nord-coréenne. Armée, parti, de même que le symbole c'est faucille, marteau, pinceau, et bien dans la réalité pratique, il y a une dualité organique armée et société civile. Simplement, comme le pays était en crise, l'armée a eu le privilège d'être le premier support du régime, mais on n'a jamais renoncé non plus au parti.
Alors, pourquoi y avait-il vraiment besoin de cette réunion? Est-ce que c'est un aveu, entre guillemets, de faiblesse de la part de Kim Jong-un ou au contraire, c'est un moyen de renforcer davantage son emprise sur l'ensemble du pays?
Oui, parce qu'en fait, donc, le pays était en crise véritablement à la mort de Kim Il-sung pendant la crise économique des années 90. L'armée était donc essentielle pour tenir le pays. Maintenant, l'économie va mieux, hein, puisqu'en gros, elle s'est un petit peu libéralisée, un petit peu ouverte. Et le nouveau dirigeant a promis non seulement la puissance internationale et donc militaire, mais également de faire du pays une économie puissante et prospère. Donc pour cela, il faut s'ouvrir à la société civile. Donc c'est vraiment maintenant l'idée que le régime tient sur deux jambes, la jambe militaire et la jambe civile, et que les deux doivent aller ensemble. Il y a d'ailleurs un nouveau dogme hein, qui s'appelle Pyongjin, qui veut dire le développement parallèle en quelque sorte. Hein, donc le développement et de la puissance et de l'économie, ce n'est pas alternatif, c'est cumulatif. Et c'est ça que veut faire Kim Jong-un, qui en plus étant jeune, joue la carte de la jeunesse et promet à la jeunesse une certaine prospérité, l'accès aux nouvelles technologies, bref, tout ce qui fait une société moderne et tout ce qui attire au Sud. En gros, il promet au Nord d'avoir un développement comparable à celui du Sud.
Vous évoquiez la société civile nord-coréenne. De l'image que l'on a de la Corée du Nord, on a peine à imaginer tout de même qu'il y ait une société civile.
Ah, si quand même, parce que depuis les ouvertures économique de 2002, sous Kim Jong-il, s'est développée une bourgeoisie, petite bourgeoisie, mais dont certains réussissent fort bien. Il y a l'usine des cosmétiques de Pyongyang, par exemple, dont on dit qu'elle emploie 10 000 personnes. Donc il y a une petite frange bourgeoiso-capitaliste qui s'est développée dans le pays et qui fait que, par exemple, à Pyongyang, maintenant, on a l'impression d'être à Séoul dans les années 60. Hein, il y a des automobiles, il y a des téléphones portables, il y a des cafés Internet, bien sûr. Il y a quand même une bourgeoisie moyenne qui s'est développée. Beaucoup se sont fait élire d'ailleurs au Parlement, ce qui veut donc dire que le Parlement c'est un peu l'élite économique, enfin l'Assemblée Générale pardon, du peuple, c'est l'élite économique et que l'armée est une autre force qui est une autre vision de l'économie, d'ailleurs une vision beaucoup plus classique d'exploitation puisque l'armée possède de grandes propriétés foncières agricoles et de l'autre côté on développe et on crée un capitalisme. Donc deux économies différentes, deux sociétés différentes, deux visions différentes. Et le régime doit tenir grâce aux deux. Donc pour le moment, Kim Jong-un a joué la carte de l'armée. C'est un super militaire. Il envoie des bombes, des missiles. Et il faut aussi qu'il soit l'homme du développement. Sinon, ça n'ira pas.